Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel. Au micro, Yves Bastide pour l'émission Café Pouchkine. Aujourd'hui, je souhaite évoquer pour vous et avec vous une personnalité de la littérature russe qui est trop peu connue en France, sans doute, même si il est entré dans la collection de la Pléiade sous forme de deux tomes. Il s'agit de Michel Afanassievitch Bulgakov. Alors, Bulgakov est né en 1891 à Kiev. Il est mort à Moscou en 1940, donc il est mort quand même avant d'avoir atteint ses 50 ans et sans doute avant d'avoir donné la pleine mesure de son talent. Alors, il fait des études de médecin, tout comme Tchekhov d'ailleurs. Il devient docteur, vénérologue, et il travaille dans ce métier-là. Il a notamment écrit les récits d'un jeune médecin qui évoque cette expérience. Et lorsqu'éclate la révolution, la guerre civile, il décide de quitter Kiev et de partir à Moscou. À Moscou, il laisse assez vite tomber la carrière de médecin pour devenir journaliste. Et en 1925, il écrit un roman qui aura beaucoup de succès à l'époque. Ce roman s'appelle « La Garde Blanche ». La Garde Blanche, c'est l'histoire de Kiev au moment de la guerre civile. Kiev, au moment de la guerre civile, a connu une expérience que n'ont pas connu les autres grandes villes de Russie. Entre, il y avait les Rouges, les Bolcheviks, les Blancs, fidèles au Tsar, les Verts, c'est-à-dire, on va dire, les anarchistes, et des bandes moins organisées. Et dans cette atmosphère de guerre civile où tout le monde tuait tout le monde, où tout le monde s'espionnait, se regardait de travers, etc., il montre comment une famille, on va dire, d'intellectuels, réussit à garder son unité et sa personnalité. Il en tirera d'ailleurs une pièce qui s'appelle « Les jours des tourbines » et on dit, je vous le répète sous toute réserve, que Staline est allé voir la pièce et l'a beaucoup appréciée. D'autant plus que la pièce a été jouée au Théâtre d'Art de Moscou qui a été dirigé par Stanislavski. Ce qu'on sait moins, c'est que la même année, 1925, il écrit une nouvelle qui annonce déjà la future personnalité d'écrivain de Bulgakov. Cette nouvelle, c'est « Cœur de chien ». Cœur, C-O-E-U-R. Alors, c'est une histoire absolument farfelue. Un savant greffe sur un chien un cerveau humain et des organes génitaux humains. Le chien devient donc un homme, peut-être pas tout à fait comme les autres, et qui devient peu à peu responsable, et il est évidemment responsable de la lutte contre les chats. Jusqu'à ce que le savant réalise qu'il a commis une erreur terrible et arrive à opérer le chien, Boule, qui n'est plus tout à fait un chien, pour que celui-ci redevienne un chien naturel, enfin si on peut dire. Et Bulgakov va continuer, tant bien que mal, à survivre. Tous ses grands romans seront refusés par la censure. Il écrit quelques pièces qui ont un certain succès. Et puis un jour il en a assez, il décide de demander son visa pour l'étranger. C'est lui qui l'a raconté plus tard. Un jour, chez lui, Il reçoit un coup de téléphone. Il décroche et il entend une voix. Allô, Iossif Vissarionovitch. Iossif Vissarionovitch est Staline. Évidemment, Bulgakov croit à une mauvaise plaisanterie, une plaisanterie de mauvais goût, et raccroche. La personne rappelle et lui dit, vous ne croyez pas que c'est Staline, voici un numéro, appelez-moi. Et c'était bien Staline qui apparemment appréciait Bulgakov et ne voulait pas qu'il parte. Et Staline va piéger Bulgakov. Il lui dit, écoutez, je pense que vous allez avoir une place très prochainement, restez. Effectivement, quelques jours après, très vite, il reçoit une proposition du Théâtre d'art de Moscou pour devenir assistant metteur en scène. Et c'est ainsi que Bulgakov finira ses jours comme assistant metteur en scène avant de mourir attrapé par la maladie en 1940. Alors, le maître et Marguerite, il a écrit entre 1928 et 1940. Inutile de préciser que le roman ne sera pas publié non seulement de son vivant, mais ne sera publié qu'en 1987, c'est-à-dire exactement 3 ans avant la chute du régime communiste. Et il va entre-temps survivre en faisant une adaptation théâtrale des âmes mortes, en faisant une adaptation théâtrale du Tartuffe de Molière. Et alors, ce maître et Marguerite, de quoi s'agit-il? Alors, tout de suite, il faut bien se mettre dans l'esprit qu'en le lisant, autant renoncer à toute analyse logique. Il y a d'abord Marguerite. Alors Marguerite, son principal souci, c'est de rajeunir. Elle veut rajeunir de 10 ans. Et puis, elle rencontre Voland. Voland, c'est Satan, qui devient son maître, qui lui donne des pouvoirs magiques, notamment celui de survoler la capitale, Moscou, sur un balai. Elle participe à des bals, des soirées, notamment une soirée qui ressemble tout à fait à ce qu'on appelait la nuit de Valpurgis. Et elle découvre que Voland est en fait la personnification de Satan. Et il est toujours accompagné d'un chat. Et ce chat, ironiquement, observe ce que font les humains. Il y a des choses étonnantes, notamment un magicien qui donne à ses spectateurs tout l'argent, tous les costumes, tous les bijoux qu'ils veulent. Et les spectateurs, évidemment, ravis, sortent de la salle et le lendemain, ils se retrouvent évidemment tout nus, sans argent, ni bijoux, ni vêtements. Alors, ce qui est surprenant, c'est que sur les 30 et quelques chapitres que comporte le roman, il y en a 4 qui sont consacrés à Ponce Pilate. Ponce Pilate, avec Jésus, Ponce Pilate après la mort de Jésus, Ponce Pilate qui essaie de sauver Judas. Et voici la première rencontre avec Ponce Pilate dans ce roman qui, par ailleurs, se passe au XXe siècle. dans son ample manteau blanc, à la doublure couleur de sang, du pas traînant et heurté qui est le propre des cavaliers, tôt le matin du 14e jour du mois de printemps appelé Nisan, un homme pénétra sous le portique reliant les deux ailes du palais d'Hérode le Grand. C'était le procurateur de Judée, Ponce Pilate. Plus que tout au monde, le procurateur haïssait l'odeur de l'essence de rose, et tout en cet instant laissait présager une mauvaise journée, car cette odeur avait commencé à le poursuivre dès l'aurore. Il semblait au procurateur que les cyprès, les palmiers du jardin, exhalaient une odeur de rose, qu'à l'odeur du harnais de cuir et de sueur émanant de son escorte se mêlait une maudite effluve de rose. Montant des annexes construites à l'arrière du palais où était cantonnée la première cohorte, une fumée légère arrivait jusque sous le portique, par-dessus la terrasse supérieure du jardin. Et à l'odeur un peu âpre de cette fumée, signe que les cuistots des ceinturies avaient commencé à préparer le repas, se mêlait toujours ce même arôme gras d'essence de rose. Ô Dieu, Dieu, pourquoi me punissez-vous? Aucun doute, c'est-elle, encore elle, l'invincible, l'affreuse maladie. L'hémicranie qui vous prend la moitié de la tête. Contre elle, nul remède, aucun recours. Je vais essayer de ne pas bouger la tête. Sur le sol de la mosaïque, près de la fontaine, un fauteuil avait été préparé. Le procurateur s'y assit, sans regarder personne, tendit la main vers le côté. Son secrétaire déposa respectueusement dans cette main un morceau de parchemin. Avec une grimace de douleur qu'il ne put contenir, le procurateur du coin de l'œil parcourut le texte écrit sur le parchemin, rendit celui-ci au secrétaire et articula un prévenu originaire de Galilée. L'affaire a été portée devant le tétrarque. Oui, procurateur, et qu'a-t-il décidé? Il a refusé de trancher, a envoyé la ratification de la sentence de mort prononcée par le Sanhédrin devant votre tribunal, expliqua le secrétaire. Faites entrer l'accusé. Aussitôt, venant de la terrasse, apparut un homme d'environ 27 ans qu'il maintint debout devant le fauteuil du procurateur. Il était vêtu d'un chiton bleu clair, très vieux, tout déchiré. Sa tête est couverte d'un tissu blanc. Le procurateur demanda en araméen, « C'est donc toi qui as incité le peuple à détruire le temple de Yerushalayim ?» Et je vous laisse le soin de découvrir la suite de l'histoire de Judas. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Две гитары зазвенев жалобно заны, детство помят ныне пьет.